Dans l'après-midi du 26 septembre dernier, il y a donc un mois et demi, une puissante détonation retentit à Indian Head, petit port fluvial sur les rives du Potomac, à une trentaine de kilomètres du centre de Washington. Au cours des premières heures, les autorités locales s'étaient enfermées dans le déni, n'osant pas mettre un nom sur ce qui venait de se produire, une authentique explosion nucléaire. De faible puissance et d'ampleur limitée, certes, puisque la dévastation ne dépassa pas un rayon de 1000 mètres, mais il y eut tout de même plus de 600 morts et des milliers d'habitants des environs furent blessés ou contaminés. Les victimes auraient été beaucoup plus nombreuses encore si le nuage radioactif n'avait pas été balayé par de providentiels vents d'ouest. Pour tenter de calmer les esprits, certains s'évertuèrent à parler d'une déflagration accidentelle. Ce qu'elle était, au sens strict, vu que les manipulateurs de l'engin n'avaient sans doute pas l'intention de le faire exploser à cet endroit et à ce moment-là. Jusqu'à ces derniers jours, d'ailleurs, plusieurs médias continuaient à dire que les responsables du désastre étaient de jeunes étudiants fascinés par le nucléaire, plutôt que des terroristes s'apprêtant à frapper la capitale fédérale. Hypothèse difficile à croire, mais tout aussi difficile à réfuter, vu que tous ces apprentis sorciers ont été pulvérisés sans laisser de traces. Dès le lendemain de l'explosion, on commença à prendre conscience des implications de ce qui venait de se passer. C'est alors qu'est née, en Amérique et ailleurs, cette angoisse violente qui n'a cessé de s'amplifier depuis. On pourrait même dire que l'humanité entière est restée sous le choc, à garde désemparée.
Bonjour Amin Maalouf.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là ce matin de si bonne heure. Merci pour avoir lu un extrait de ce nouveau roman que vous faites paraître chez Grasset, Nos frères inattendus. Quand on entend cet extrait, on ne peut s'empêcher de faire un parallèle possible avec ce qui s'est passé le 4 août au Liban. Vous savez que nous sommes dans un week-end spécial sur France Culture en partenariat avec l'Institut du Monde Arabe. Il ne s'était pas agi d'une déflagration nucléaire, mais pas non plus d'une explosion non conventionnelle. Est-ce que le parallèle, vous l'avez bien écrit, bien sûr écrit avant ce livre,
oui,
mais est-ce que le parallèle est possible et envisageable à un moment ou à un autre?
C'est vrai qu'au moment de l'explosion de Beyrouth, en regardant les images surtout, on avait l'impression d'images d'Hiroshima, d'un petit Hiroshima, et c'est cela, entre autres, je pense, qui a provoqué le choc qu'il y a eu partout, parce qu'il y avait quelque chose qui ne ressemblait pas à une explosion classique. Et c'est vrai que c'est étonnant que ça arrive au moment où je publiais ce livre. C'est le narrateur de ce livre vit sur une île,
toute petite,
une minuscule île de la côte atlantique, et à un moment donné, le monde a l'air de s'arrêter. En tout cas, pour lui, il y a une coupure de l'électricité, une coupure de toutes les communications. Il se demande ce qui a pu se passer dans le monde. Et comme il a à l'esprit cet événement qu'il vient de raconter, il se dit peut-être qu'à cause de cet événement, il y a eu un dérapage nucléaire dans le monde. Et il commence à se poser des questions et peu à peu, en tâtonnant, en parlant aux personnes qu'il peut joindre, il découvre ce qui s'est réellement passé dans le monde.
Amin Maalouf, c'est un retour au roman, on pourrait dire, pour vous, avec ce livre « Nos frères inattendus », parce que vous êtes membre de l'Académie française, vous avez obtenu le Goncourt en 93 pour le Rocher de Tanios, mais vous avez aussi publié un certain nombre d'essais. Et depuis quelques années, des identités meurtrières, des désorientés, du naufrage des civilisations qui a obtenu le prix aujourd'hui en 2019, sauf peut-être justement les désorientés qui datent de 2012. Vous nous aviez habitués, avec le dernier Un fauteuil sur la Seine en 2016 et le dérèglement du monde en 2009, aux essais. Et puis donc voilà, 8 ans ont passé depuis les désorientés. Retour au roman après une longue pause. Qu'est-ce qui vous a conduit à faire de ce livre qui parle beaucoup des dérèglements du monde, hein, on va y revenir bien sûr, mais une fiction?
L'écrivain allemand Novalis dit que les romans naissent des manquements de l'histoire.
C'est d'ailleurs votre exergue.
C'est la phrase que j'ai choisie pour l'exergue. Et c'est vrai que, en observant le monde et en le décrivant dans les divers essais que j'ai écrits récemment, j'ai pu constater tous les manquements qu'il y avait dans le monde et toutes les frustrations que l'on peut éprouver en regardant. Moi qui viens du Liban, j'observe mon pays natal, ma région natale, et je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui va dans une direction inquiétante. J'observe le monde autour de moi, l'Europe. Moi, j'ai une passion pour l'Europe et je suis frustré en voyant tout ce qui arrive avec le Brexit et le reste. En regardant le vaste monde, l'Amérique, je me dis, c'est étrange quand même, la grande démocratie américaine, on observe, on se demande aujourd'hui s'il y aura des élections, si on va accepter le résultat des élections, on se croirait dans un autre pays, dans une autre époque. Et c'est vrai qu'à partir de ces constatations, de cette observation du monde, j'ai eu envie d'écrire un roman qui, je ne dirais pas qu'il règle ces problèmes, mais qui permette d'espérer en disant peut-être qu'un jour, quelque chose va arriver, qui va nous sortir de là, quelque chose d'un peu miraculeux. Et donc j'ai cherché dans le passé de l'humanité des moments miraculeux. Et voilà, ça a donné un peu ce roman.
Ça a donné ces frères inattendus, réunis sous un drôle de nom, là aussi, les amis d'Empédocle, référence à Empédocle d'Agrigente et référence à la démocratie athénienne. Vous avez dû remonter assez loin quand même, Amine Malouf.
J'ai toujours eu une passion pour le miracle grec antique, le miracle athénien. C'est quand même étonnant, à cette époque-là, il y a 2500 ans, de voir apparaître soudain une civilisation aussi avancée qui a pratiquement inventé le théâtre, qui a inventé la philosophie, qui a inventé quasiment la démocratie, et puis qui soudain a disparu. Ça a duré, le miracle athénien c'est gigantesque, mais ça a duré 70-75 ans, pas plus. Et depuis longtemps, j'ai un fantasme à ce propos. Je me dis, et si les fondateurs de ce miracle antique n'avaient pas complètement disparu, s'ils étaient devenus souterrains, comme ces fleuves qui parfois vont sous terre et n'apparaissent plus, mais ils existent toujours, si cette humanité capable d'un tel miracle n'avait pas complètement disparu, et si un jour elle nous revenait elle-même transformée et avec l'idée de nous transformer nous aussi à son image.
Donc il y a un mélange entre l'uchronie dans ce livre, Amine Maalouf, et de paraboles philosophico-politiques.
Oui, vous avez raison. C'est surtout un livre qui a envie de résoudre, même par un miracle, de nous sortir en quelque sorte, même de l'impasse où j'ai le sentiment que l'humanité se trouve aujourd'hui. Parce que je pense sincèrement qu'elle se trouve dans une impasse et qu'il faudrait une sorte de miracle pour la...
Vous dites l'humanité, et pourtant, dans votre roman, à plusieurs reprises, on lit que l'humanité s'est divisée en deux, comme si la fable politique de la division de l'humanité en deux rejaillissait sur nous aujourd'hui. Et cela m'a fait penser à une réflexion de la rabbine Delphine Horviller, qui était l'invitée en même temps que vous l'année dernière à la Grande Librairie sur France 5, au moment où vous aviez sorti Le Naufrage des Civilisations. Elle parlait de ces deux facettes de l'humanité. Bon, on va l'écouter, tiens, ça sera le plus simple.
En lisant Amin Maalouf, je pensais bien sûr, en tant que rabbin, à des situations bibliques qui, pour moi, m'inspiraient votre livre. Il y a dans la Bible des situations où, tout à coup, un monde va disparaître. Ou, en tout cas, il y a une menace de disparition d'un monde. Par exemple, il y a deux situations classiques. Il y a celle de Babel, la tour de Babel. Vous savez, Babel, c'est l'humanité qui parle une seule langue. C'est-à-dire que c'est le contraire de l'idéal du Levant. À Babel, tout le monde parle la même langue et ce projet est voué à la destruction. Et puis, il y a Sodome et Gomorre, qui, contrairement à ce que souvent on raconte, n'a pas été détruit pour une dépravation à caractère sexuel, mais en réalité parce que c'était des villes où on ne savait plus accueillir l'autre. C'était des villes qui n'avaient plus d'hospitalité. Donc, dans les deux cas de figure, les villes qui sont détruites dans la Bible, c'est des villes qui ont une incapacité à laisser de l'autre en soi. Exactement ce que notre monde vit aujourd'hui. Oui, par ça. Contre, la ville qui survit, il y a plein d'exemples, il y en a un qui me vient à l'esprit, c'est la ville de Ninive dans la Bible, qui est une ville qui existe encore au Proche-Orient. Ninive, c'est une ville qui va être capable d'être sauvée parce qu'elle procède à une introspection. On dit que les habitants de Ninive, ils sont capables tout à coup de se regarder dans un miroir. Et donc il y a un enjeu pour nous qui est exactement celui-là. Est-ce qu'on continue à ne pas faire de la place à l'autre comme à Sodome et Gomorre et à ce moment-là c'est la destruction? Ou est-ce qu'on est capable de sauver notre Ninive à nous?
Amin Maalouf.
Je me souviens de ces propos de Delphine Orvilleur et je pense que nous sommes complètement sur la même longueur d'onde. L'humanité d'aujourd'hui donne l'impression d'être à bout de souffle. On se demande où on va, on se demande comment on va sortir de toutes ces crises qui se suivent et qui nous laissent désemparés. Et c'est vrai qu'on rêve d'une issue possible. La question de la vie en commun, de comment faire vivre ensemble au sein d'une même société des gens différents est une question réelle qui est en train de miner pratiquement toutes les sociétés humaines. Et au fond de moi, j'ai le sentiment qu'aucune société humaine aujourd'hui n'a la réponse. Aucune n'a la réponse et aucune ne réfléchit avec suffisamment de profondeur, suffisamment d'inventivité pour trouver des solutions. Je ne vais pas revenir sur tous les événements, les attentats qui frappent notre société et tant d'autres, mais il est clair qu'il y a des problèmes que nous ne savons pas résoudre aujourd'hui et pourtant nous avons besoin de les résoudre.
Alors ces gens étranges, qui sont les frères inattendus, ils sont venus, ils ont prévalu, ils ont fait souffler sur le monde un vent d'angoisse ainsi qu'un vent d'espoir, puis ils sont repartis. Qu'apportent-ils au monde, Amin Maalouf ?
Ils apportent l'idée, d'abord, que l'humanité a un seul ennemi, c'est la mort. Et l'ennemi pour l'humanité, ce n'est pas une autre partie de l'humanité, c'est la mort. C'est le seul combat qui vaille la peine d'être mené. Et le jour où on le découvrira, on sortira de la préhistoire pour entrer dans la vraie histoire. C'est une population qui est, vous l'avez bien noté, à la fois nous et pas tout à fait nous. C'est l'humanité comme elle aurait pu être, comme, je l'espère, elle deviendra un jour. Une humanité qui s'est débarrassée de toutes les haines, de tous les égarements liés à la race et aux détestations historiques, et qui entre dans une phase où elle se conçoit comme une nation globale. Un autre aspect qui pour moi a été important en imaginant ce livre dans les années passées, c'est une humanité pour qui la question de la santé et de la survie devient la question primordiale, pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire à la fois parce que c'est la question essentielle de la lutte contre la maladie et la mort, et d'un autre côté, comment gérer cette lutte? Comment éviter que ceux qui contrôlent la santé, ceux qui ont le savoir médical, ne deviennent un jour pour nous d'autres divinités.
Non, mais c'est complètement fou, en fait, quand vous en parlez, parce que c'est exactement ce qu'on retrouve quand on fait l'expérience de lecture de ce livre, Amin Mahalouf. C'est que, bah, vous venez de le dire, vous l'avez écrit, pensé il y a des années, mais malgré tout, il est question de choses qui nous arrivent vraiment aujourd'hui. C'est-à-dire quand même que nous vivons dans une société où la santé, la vieillesse, le rapport à la vie, le rapport à la science, à la médecine, à la liberté, à la mort, est devenu central du fait même de l'arrivée d'une certaine pandémie, on va le dire comme ça. Ouais. Donc c'est vrai qu'on lit votre livre, on ne peut pas s'empêcher de penser en permanence à ce qui nous arrive. Je ne pense pas que vous l'aviez en tête à ce point quand vous l'avez fini, puisque vous l'avez sans doute fini avant même qu'il nous arrive la Covid-19. Non. Mais ce qui est absolument fou quand on vous lit, c'est de retrouver toutes ces questions qui nous posent, qui nous en soulèvent bien d'autres, disons.
C'est vrai, je ne pensais pas à une pandémie. Quand j'ai terminé ce livre, que je l'ai fait lire à mon éditeur en novembre ou décembre dernier, il ne s'agissait pas du tout de pandémie. Le livre ne parlait absolument pas de cela, il ne parle pas de cela. Et pourtant, quand pendant le confinement, j'ai relu le manuscrit avant de l'envoyer et de décider, parce qu'on ne savait pas, les librairies étaient fermées, est-ce qu'il fallait publier un livre aujourd'hui, je l'ai lu et curieusement, alors qu'il ne parlait pas du tout, il ne parlait pas de ce qui arrive, j'avais le sentiment d'être dans l'état d'esprit où la pandémie nous avait mis. Et je sentais que l'humanité, en quelque sorte, tout entière, d'abord, ce n'était jamais arrivé que l'humanité entière ait un accident. On peut avoir un accident collectif, on peut avoir un accident qui secoue un pays, une région. Mais soudain, comme ça, en quelques semaines, l'humanité entière qui fait face au même problème totalement inattendu et qui l'oblige à prendre des mesures similaires à Calcutta, à Paris et partout, c'est tellement nouveau dans l'histoire de l'humanité. Je ne sais pas si on aura d'autres occasions à l'avenir, mais dans le passé, dans les millénaires passés, on n'a jamais eu cela. Quelque chose est en train d'arriver. L'humanité est en train de devenir, malgré elle, une nation humaine, alors que les haines au sein de cette nation humaine n'ont jamais été aussi déchaînées qu'avant. Les conflits ethniques, raciaux, les nouvelles courses aux armements, les nouvelles guerres froides qui se déchaînent un peu partout, les détestations partout. La perte de crédibilité morale de pratiquement tout le monde, tous les dirigeants politiques, tous les dirigeants religieux, toutes les idéologies, tout. On est dans un monde complètement déboussolé et en même temps, quelque chose arrive qui nous dit vous êtes un peuple qui est le peuple de la terre et vous n'y pouvez rien. Vous avez beau vous combattre, c'est la même espèce qui souffre des mêmes virus, qui a la même constitution, qui peut être décimée par la même minuscule chose. Et il faut vous faire une raison, il faut commencer à réfléchir autrement, à réagir autrement.
Et vous aviez déjà commencé donc à réfléchir à cette idée peut-être que vouloir guérir du risque de mourir est dangereux. Les débats sont complexes, y compris dans votre roman.
Ce qui est dangereux dans un sens et en même temps fascinant, c'est cette idée que nous pourrions un jour ne plus mourir et que peut-être que quelqu'un va nous donner cette possibilité. Et quel regard allons-nous porter sur la personne ou la population qui va nous dire un jour « je peux prolonger votre vie » et nous allons être ces obligés, peut-être même ces esclaves.
Amin Maalouf, restez avec nous. Il est 7h30 sur France Culture. On va entendre les titres de l'actualité. Retour à la réalité, on peut le dire comme ça. Merci de rester avec nous. 7h30. L'écrivain Amin Maalouf est notre invité ce matin pour notre plus grand bonheur. Amin Maalouf qui fait paraître ces jours-ci son roman « Nos frères inattendus » chez Grasset. Vous le savez, nous sommes ce week-end en partenariat avec l'Institut du Monde Arabe qui consacre 24 heures spéciales à Beyrouth, au Liban. Eh bien, il y a quelques jours a eu lieu un concert à Beyrouth, votre ville natale, Amin Maalouf, dans les jardins d'un palais historique qui a été dévasté par l'explosion du 4 août au port, comme un hommage aux victimes. Et à cette occasion, j'ai pu lire que vous aviez prononcé dans un enregistrement une prière vers le ciel pour que le Liban puisse, cette fois encore, je vous cite, se remettre debout et relever ses murs et panser ses blessures, qu'il sache surmonter sa détresse, sa douleur et son abattement. C'est très émouvant ce que vous avez lu à ce moment-là. Il leur manque aussi des frères inattendus.
Oui, s'il y a un pays qui a besoin d'une sorte de miracle pour le sortir de son tête-à-tête obsédant avec les calamités de l'histoire, c'est certainement le Liban. Je souffre comme toute personne qui vient de ce pays, qui aime le pays, je souffre en voyant ce qu'il est en train de devenir. Et il y avait une cérémonie pour le 40e de l'explosion du 4 août. Et j'ai écrit cette courte prière pour exprimer mon sentiment, ma détresse et en même temps quand même mon espoir.
Un concert qui a commencé par une chanson célèbre en hommage à la ville, Li Beyrouth, interprétée par Fadiaton Belhadj sur la musique du concerto d'Aaron Ruiz.
Li Beyrouth, min kalbi salamun li Beyrouth, wa kuban البحر والبيوت لصخرة كأنها وجه بحار قديم هي من روح الشعب خمر هي من عرقه خبز وياسمين فكيف صار طعمها طعم نار ودخان.
Amin Maalouf, dans le naufrage des civilisations, qui est un essai, l'optimisme avait cédé la place à ce qu'on pourrait appeler l'enténébration du monde. Vous aviez éprouvé le besoin de revenir à ce que vous appelez l'esprit du Levant, au Liban des années 70, pour comprendre comment on en est arrivé là. Et j'aimerais vous demander aujourd'hui quelle différence vous feriez entre, disons, la lucidité sur le monde tel qu'il est et le désespoir.
Je pense que le désespoir ne mène à rien, surtout pour un écrivain. Propager le désespoir, c'est irresponsable et c'est destructeur. Je crois que la littérature a deux missions essentielles. La première, c'est comprendre le monde, et là, c'est la lucidité, et refaire le monde, le réimaginer et le reconstruire. Et là, c'est plutôt à travers le roman. Et notre monde a besoin d'être repensé. Il est totalement égaré. Il est totalement déboussolé, plus qu'on imagine. Il pourrait aller vers la destruction. Et il ne faut pas simplement s'attendre à ce qu'il y ait un sursaut spontané de l'humanité. Moi, je pense que ce serait irresponsable d'attendre cela. Il faut reconstruire l'avenir, il faut reconstruire le monde, et c'est maintenant qu'il faut commencer à le reconstruire. Carlos Fuentes disait que les 500 prochaines années commencent demain, et je pense que l'avenir, c'est pas dans des années, l'avenir, ça commence aujourd'hui et demain, et il est déjà très tard, il est déjà extrêmement tard, si on veut véritablement corriger la route.
Et la littérature a donc un pouvoir immense, en tous les cas peut-être un rôle immense à jouer. D'où ce personnage dans Nos Frères Inattendus, Amin Maalouf, de la voisine du narrateur, qui est un dessinateur d'origine canadienne et puis qui se fait chroniqueur des temps présents. Donc la voisine du narrateur a pour nom Ève Saint-Gilles. Elle a écrit un livre, un seul, mais quel livre ? Il est devenu culte et il contient précisément des réponses, des clés de compréhension du monde. Et les Frères Inattendus s'y réfèrent à ce livre. D'où la puissance de la littérature.
Le livre écrit par Ève s'intitule « L'avenir n'habite plus à cette adresse ». Et ce livre lui a valu d'être adulé pendant longtemps, d'être considéré comme la représentante d'une génération. Et en même temps, elle n'arrivait pas, peut-être à cause de l'accueil du premier livre, n'arrivait plus à écrire le deuxième, et elle va, elle aussi, s'isoler, comme le narrateur, sur une minuscule île,
où
chacun d'ailleurs, chacun des deux, il y a deux habitants sur cette île, et ils ne se parlent pas pendant des années, et là, ils se retrouvent, soudain, à cause de ce qui vient de se passer, de cette chose étrange qui a arrêté le monde. Et chacun d'eux a une sensibilité complètement différente. Et ma sensibilité à moi, c'est entre celle du narrateur et celle d'Ève. Souvent, quand elle explose contre l'humanité, contre les égarements de l'humanité, c'est moi qui ai envie d'exprimer cette explosion, cette rage, cette révolte. Et je crois que le monde d'aujourd'hui a besoin d'une révolte comme celle d'Ève.
Cette petite île minuscule de l'Atlantique s'appelle donc Antioche. Elle est sur l'archipel des Chirons. Le narrateur s'isole, vous l'avez dit vous-même, Amin Maalouf. Il écrit même « Si j'ai choisi de me retirer sur mon île, c'est bien par défiance envers le monde ici, le monde tel qu'il est devenu ». Il vous arrive aussi, vous, Amin Maalouf, de vous retirer dans peut-être un refuge qui est une petite île de l'Atlantique qu'on laissera mystérieuse. Est-ce que vous avez écrit Nos Frères Inattendus retirés sur votre petite île?
D'habitude, j'écris entre cette île et Paris, mais ce livre, je crois que je l'ai écrit presque entièrement là-bas. Et c'est vrai que l'île dont je parle dans le livre est une île imaginaire, Antioche. D'abord, j'aime beaucoup ce nom. Et il se trouve qu'il y a dans cette région, à l'ouest de la France, une région du côté d'Oléron, qui s'appelle le Pertuis d'Antioche. Et il y a même, quand vous regardez sur les cartes extrêmement détaillées, au bout d'Oléron, il y a un petit rocher qui s'appelle le rocher d'Antioche. Donc je me suis inspiré de cette réalité géographique minuscule, mais pour moi hautement symbolique, pour cet îlot où vit le narrateur et où vit sa voisine, Ève.
On aurait presque pu avoir du rocher de Tanios au rocher d'Antioche, si vous aviez suivi un
fil. Je n'y avais pas pensé.
Le juron favori de votre narrateur, c'est ventre de thon. Comme disent les vieux marins de l'île, c'est devenu votre jury et votre juron favori aussi.
Il y a beaucoup d'expressions extrêmement pittoresques dans cette partie du monde. Et une des choses que j'ai entendues un jour, un marin qui disait il faut qu'on mange ce poisson avant qu'il ne nous mange, parce que beaucoup de gens se perdent en mer. Je ne le savais pas avant d'aller m'installer là-bas. Dans toutes les familles, il y a quelqu'un qui a été perdu en mer. Il y a des deuils qui se prolongent. J'ai connu, je pense notamment à une dame qui a vécu sa vie entière dans le deuil d'un fils perdu en mer. Et ça reste quelque chose d'extrêmement présent dans l'imaginaire de toute cette partie de la France.
Amin Maalouf, vous avez très gentiment accepté de rester avec nous pour la suite de cette émission. Ça tombe bien parce que vous avez la passion de l'observation du monde depuis enfant et que nous allons entrer dans la fabrique médiatique pour parler de l'anniversaire, d'un triste anniversaire, là encore, de l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen. Et avant de passer à la fabrique médiatique, nous allons entendre une merveilleuse chanson grâce à vous. Gracias a la vida. Juste un mot, pourquoi avez-vous choisi ce titre de Mercedes Sosa?
D'abord, j'aime beaucoup la voix, l'ampleur et le souffle de Mercedes Sosa, qui malheureusement nous a quittés il n'y a pas si longtemps. Et le titre même et la force de cette chanson, Merci à la vie, parce que souvent on est désespéré devant ce qui arrive dans le monde, mais il faut aimer la vie.
Gracias a la vida, me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo, su fondo estrellado. Y en las multitudes, el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando.
Mercedes Sosa, gracias a la vida. Un cadeau de notre invité, Amin Maalouf, ce matin.